La rencontre, tant redoutée depuis des mois, a finalement eu lieu. Trump a reçu Poutine sur le territoire américain, lui a déroulé le tapis rouge. Alors, nouveau Yalta, partage du monde aux dépens des Européens et naissance de nouvel axe autoritaire? Non. Une discussion qui tourne court, un repas annulé, une conférence de presse abrégée et chacun est rentré chez lui. On a fait quelques sourires forcés pour la galerie, mais aucun résultat concret n'est apparu. Sans doute en saura-t-on un peu plus après la rencontre entre Trump et Zelensky ce lundi. Mais en l'état des informations disponibles, il semble plutôt que la tentative de Trump de faire un deal se soit heurtée aux longues considérations historiques névrotiques dont Poutine a le secret. En somme, un dialogue de sourds. Alors finalement, la montagne a-t-elle accouché d'une souris ou se prépare-t-elle à accoucher d'un volcan? Bonsoir, je suis Philippe Fabry. Nous sommes le 17 août 2025, il est 21h51. Nous sommes en compagnie de l'impassible Léo Portal. Comment vas-tu, mon cher ami?
Ben écoute, difficile de reprendre, mais ça va, et je suis en train d'essayer de te
On a vu
monter le
ça.
son.
On a vu
Pour
ça.
info, il y a une mise à jour du logiciel qu'on utilise, et visiblement, ça a mis à jour pas mal de choses.
Non, mais le problème, c'est qu'on a tenté de violer l'ordre du monde. On s'est dit, on va essayer de commencer à l'heure, et l'univers nous a rappelé que cette émission ne peut pas commencer avant le quart d'heure toulousain. C'est les dieux de la temporalité ne sont pas d'accord. Ce n'est pas possible.
C'est exact.
Nous sommes ravis de vous retrouver tous pour ce soir. Comme d'habitude, cette émission sera suivie du live privé des souscripteurs, dans lequel nous répondrons à toutes vos questions, sauf les gens qui auront fait un cours d'émission, quelqu'un nous répondra dans le cours de ce live gratuit, qui restera gratuit pendant une semaine, je le rappelle, c'est la nouvelle doctrine. Et ensuite, il intégrera le catalogue, qui est visionnable avec le premier palier d'abonnement, de manière illimitée et sans pub, naturellement, c'est l'avantage. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Eh ben, la reprise est effectivement compliquée, de mon côté aussi, parce que je retourne au boulot aussi demain. Hein, donc, nous sommes tous là. Nous sommes tous là pour parler de cette actualité, malgré tout, qui est effectivement très chaude, qui n'est pas totalement déployée, on va dire, puisque la deuxième grande séquence, ça sera demain. Alors demain, on ne pourra pas faire de live spécial, sans doute, pour commenter éventuellement la réunion avec Zelensky. On verra peut-être dans la semaine, mais parce que demain soir, nous avons notre première réunion éditoriale pour la revue d'histoire théorique avec nos chers amis qui a été programmée et que nous faisons en visio, et donc je ne peux pas être à la fois au four et au moulin, naturellement. Donc je serai là. Je serai pas là, pardon. Il y aura à commenter, je donnerai peut-être mon avis sur X, le cas échéant. On va revenir sur cette séquence, malgré tout. Cette séquence qui a commencé à se déployer, en fait, un peu avant. Il faut quand même revenir sur ce qui s'est passé à partir du mois de juin, avec la séquence d'énervement de Donald Trump, où on a pu se dire, ça y est, cette fois, c'est sûr, il va changer de braquet contre Vladimir Poutine. C'était un peu tôt, vraisemblablement, mais en tout cas, il y a eu ses premiers gestes avec cette idée que peut-être il allait qui commençait à en avoir marre, que c'était pas normal. Enfin, j'avais fait des émissions là-dessus à l'époque, hein, qu'il se demandait si Vladimir Poutine le baladait pas, etc. Et donc, il avait mentionné son idée de donner un délai de 50 jours pour permettre à Vladimir Poutine de revenir à de meilleurs sentiments, on va dire. Naturellement, tous les anti-Trump des commentateurs, c'est-à-dire la plupart des commentateurs, sont partis dans l'idée que c'était encore un cadeau qui était fait à Poutine pour l'aider à conquérir l'Ukraine. Certains ont expliqué que lors de leur dernier entretien téléphonique, comme Vladimir Poutine a dit qu'il allait lancer de nouveaux assauts d'ici 60 jours, et ben Trump en lui donnant 50 jours, c'était déjà 10 jours, il avait annoncé ça 10 jours après leur appel, et donc en fait c'était pour faire un cadeau à Poutine, etc. Tout ceci, encore une fois, ce narratif, naturellement, s'est effondré lorsque Donald Trump, il y avait une quinzaine de jours, a déclaré qu'il allait finalement raccourcir le délai à 10-12 jours pour voir où en serait Poutine et que sinon, il risquait de sanctionner très fortement ses exportations de pétrole, notamment avec la mise en place des fameuses sanctions secondaires hein, contre les clients de la Russie directement. C'est-à-dire ceux qui lui achètent son pétrole, pétrole qui permet de financer la guerre en Ukraine, grosso modo. Donc ça, c'est ce qu'avait dit Trump, et donc ça nous menait, ça aurait dû mener vers aux alentours du 8 août, ou du 8 ou 9 août. Et finalement, on n'est pas allé jusque-là, puisqu'il y a eu des contacts entre Trump et Poutine, et que ce qui a été annoncé finalement, aux alentours du 8 août, c'est, même un peu avant, c'est cette réunion. Cette rencontre in personam en chair et en os qui devait se faire en Alaska et qui a été faite en Alaska, que nous avons vu se dérouler. Et là, on a entendu les médias repartir dans tous les trucs habituels. Ça y est, c'est ce qu'on craignait depuis le début. Il va vendre l'Ukraine, il va s'entendre avec Poutine, etc. Enfin, vous avez tout vu ressortir les trucs. Vladimir Poutine a des dossiers sur lui, etc. Bon, évidemment, c'est le complotisme autorisé, comme d'habitude. C'était en réalité trop peu probable. Mon idée, c'est quoi? Mon idée, c'est pour ça que j'ai pas été surpris que le résultat ne débouche sur rien, parce que ça fait des mois que je vous explique ça. Mon idée, c'est que Donald Trump a son idée depuis le début du deal qu'il veut donner à Vladimir Poutine. Son idée, c'est, on va dire, ce que j'appelle le pardon impérial. C'est-à-dire dire à Vladimir Poutine, bon, tu gardes ce que t'as pris, t'auras pas plus, tes buts de guerre en plus sur le recul de l'OTAN, etc., t'auras rien, hein, puisque tu trimes déjà assez pour avancer en Ukraine. Donc je veux bien tout figer là. On revient comme avant avec tu es réintégré dans le concert du commerce international, etc. Mais tu arrêtes ton offensive en Ukraine, tu gardes juste ce que tu as pris. Ce qui en fait, encore une fois, est pas particulièrement trumpien ou proprement trumpien comme stratégie, puisque c'est tout simplement la réédition de ce qui était déjà la stratégie assez foireuse de Barack Obama en 2008, du fameux restart avec. Après l'invasion de la Géorgie. Donc, en fait, c'est exactement la même chose. Donc, c'est pas particulièrement, encore une fois, trumpien. C'est une réaction de président américain qui estime que les frictions qu'il y a eues sont le fardeau de son prédécesseur et qui va en finir et qui pense que lui, il va réussir à comment dire, à faire aller les choses avec Vladimir Poutine. Encore une fois, si vous reprochez ça aujourd'hui à Donald Trump, il faut l'avoir reproché à Obama avant. Ce qui est mon cas, je le reproche aux deux. Je pense que c'est une mauvaise stratégie. Mais Trump a une petite excuse, on va dire, dans sa vision qui n'excuse pas tout, hein, mais en fait, ça permet de le comprendre, hein, sans qu'il ait besoin d'aller chercher le fait qu'il soit un agent russe, etc. Son excuse, j'ai déjà mentionné ici, c'est tout simplement le fait que je pense qu'il avait assez peu d'idées personnelles sur Poutine et sur la Russie de Vladimir Poutine avant de se présenter en 2016. Et les démocrates ont conçu cette espèce de paranoïa. Dans quelle mesure c'était un pur calcul et dans quelle mesure y ont-ils cru? Je pense que les deux jou ont joué, selon laquelle, parce qu'en fait c'est une paranoïa générale de l'establishment qui existe aussi chez nous, c'est-à-dire de manière générale, quand vous avez une gouvernance de pays dit démocratique qui a tendance à évoluer vers l'autoritarisme, c'est-à-dire un truc qui s'appuie sur la démocratie essentiellement pour maintenir la continuité du pouvoir mais qui n'est plus véritablement démocratique. Qui est plutôt le règne d'une élite, d'une classe, d'un establishment précisément, et bien dans ce cas-là, vous avez le réflexe de régime autoritaire qui est classique, qui est que tout opposant, par définition, est un agent de l'étranger. C'est ce que font toutes les dictatures au monde, c'est ce que faisaient les régimes communistes, et c'est ce que on fait aujourd'hui, ce que faisaient les démocrates aux États-Unis, ce que font encore les élites européennes aujourd'hui. Si vous êtes contre le narratif des élites en général, vous êtes soupçonné d'être un agent russe. Alors, c'est vrai pour certains, mais ce qu'il faut voir, c'est que cette disposition d'esprit a jeté dans les bras de la Russie, intellectuellement, beaucoup de gens qui se seraient sans doute contentés d'être des opposants. Alors, il y a des gens comme moi qui n'ont jamais sombré dans ce travers, mais je connais des gens, des gens qui sont parfaitement publics, qu'on a vu glisser vers la sympathie, on va dire, à l'égard du camp russe et de manière générale du tiers-mondisme ces dernières années, par détestation des élites américaines et européennes, qui sans ça étaient plutôt pro-américains, pro-européens, et qui jadis auraient vu Poutine comme un ennemi, mais qui l'ont vu de plus en plus comme un ami, tout simplement en se disant, si nos élites le détestent à ce point, ça peut pas être quelqu'un d'aussi mauvais. Bon. Et chez Donald Trump, ce mécanisme intellectuel-là a été exacerbé par le fait que les démocrates ont tenté contre lui toute une cabale pour en faire un agent russe justement pendant tout son premier mandat, alors que ça ne reposait absolument sur rien. Et par conséquent, Donald Trump s'est persuadé que Poutine ne devait pas poser tant de problèmes que ça et que le problème c'était avant tout la paranoïa démocrate. Et que ce Poutine, si on l'avait pas chauffé, il n'aurait pas fait de conneries, puisque à l'époque où lui était président, il n'en aurait pas fait. Et donc Donald Trump s'est convaincu, et il a encore cette idée en tête, je pense, malheureusement. Elle est en train de s'effacer petit à petit, hein, c'est ce qu'on voit depuis 6 mois, mais enfin, c'est long, honnêtement, c'est long. Cette idée qui est que lui, il allait réussir à régler le problème, puisqu'il n'était pas démocrate, et que donc Poutine n'avait pas de problème avec lui, donc tout se passerait très bien. Et Donald Trump est en train d'apprendre, en fait, lentement, depuis 6 mois maintenant, que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et que le fait qu'effectivement, et sans doute, les démocrates soient des paranoïaques et souvent des gens corrompus et qui ont bâti tout un narratif contre lui, le lien à la Russie, tout ceci n'empêche pas que, par ailleurs, effectivement, Vladimir Poutine est un énorme problème. Voilà. Est un salaud, est un agresseur, tout ce que vous voulez. Ça n'empêche pas. Les deux peuvent être vrais. Vous pouvez à la fois détester Vladimir Poutine comme nos élites européennes, être de mauvaises élites. Ça ne fait pas de Vladimir Poutine quelqu'un de bien. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et Donald Trump est en train, je pense, de le découvrir petit à petit, mais ça nécessite de passer par des étapes successives, longues. Et la rencontre avec Vladimir Poutine en direct, je pense, était une de ces étapes nécessaires. C'est-à-dire que d'abord, Donald Trump s'est dit, je vais appeler Vladimir Poutine, on va régler les choses. Il a appelé Vladimir Poutine, il a essayé d'avoir un cessez-le-feu, il n'y en a pas eu. Il a réessayé plusieurs fois d'appeler Vladimir Poutine, il n'en a pas eu. Il a essayé de voir si le blocage venait du côté de Zelensky. Il y a eu le clash dont on se souvient avec Zelensky, je reviens pas dessus. Mais ça n'a pas amélioré la position de Vladimir Poutine. Et il a tenté d'une manière un petit peu plus forte, avec ses menaces ces derniers temps, et vraisemblablement que dans son esprit, la rencontre directe avec Vladimir Poutine, c'était un petit peu le test ultime, en fait. C'est-à-dire que soit en tête-à-tête, avec ses talents de négociateur, on va dire, de base, de battleur, finalement, il arrive à discuter droit dans les yeux avec Vladimir Poutine, et il éclaircit la situation, soit ça marche pas, et là, il a un problème. Il a un problème parce que ça veut dire que il doit revoir son logiciel. Je pense que c'est l'étape à laquelle on est en train d'arriver. Alors, vous avez beaucoup de gens qui disent, oui, mais regardez Donald Trump, il a passé son temps à menacer, Poutine le prend pour un faible parce qu'il a passé son temps à menacer de mettre des sanctions qu'il n'a pas fait, etc. Oui, mais ça, encore une fois, j'ai déjà dit, quand vous êtes dans la position de Donald Trump, qui pense qu'il peut obtenir un deal avec Poutine, et en plus, son deal avec Poutine, c'est pas juste pour se faire plaisir avec Poutine, c'est parce que, malgré tout, et c'est vrai, il y a un risque de guerre nucléaire en cas de confrontation entre la Russie et les USA, qui ne peut pas être totalement écarté. Donc, c'est un danger. Pas être totalement inconscient pour l'ignorer. Ça ne veut pas dire qu'il faut donner tous les droits à Vladimir Poutine pour ça, mais ça fait partie des choses, voilà, des paramètres quand même qu'on ne peut pas laisser de côté. Donc, ça, c'est le premier problème de Donald Trump. Deuxième problème, il ne peut pas bombarder la Russie comme il a bombardé l'Iran. Bombarder l'Iran permet d'envoyer des messages à la Russie, mais ce n'est pas la même chose. Autre problème, il veut détacher la Russie de la Chine parce que, encore une fois, je vous l'ai déjà expliqué, je ne reviens pas en détail là-dessus, mais il cherche à rééditer la stratégie gagnante, on va dire, entre Nixon et Reagan, qui a fait tomber l'URSS. Bon, ça, c'est typique du syndrome du vainqueur de la guerre d'avant. Il a une bonne partie des élites européennes, en fait, et occidentales qui sont avec lui dans cette idée qu'on peut faire tomber la Russie comme on a fait tomber l'URSS, ce qui n'est pas le cas, encore une fois, puisque la Russie de Vladimir Poutine est un impérialisme revanchard, alors que l'URSS, c'était un ancien régime. Je renvoie aux autres vidéos de la chaîne pour comprendre quels sont les concepts. Je vous ai fait une liste exprès où vous avez qu'une dizaine de vidéos. C'est les essentiels accès libre, tout à fait gratuit. Et vous avez l'essentiel des concepts pour suivre les émissions là-dessus, si vous découvrez. Donc on peut pas traiter la Russie pareil. Mais dans l'esprit de Donald Trump, l'ennemi important, c'est la Chine. Et donc il faut détacher la Russie de la Chine parce que s'il faut commencer à gérer la Chine et la Russie en même temps, d'une certaine manière, c'est trop compliqué. Bon. Et en fait, il y a beaucoup de gens dans les élites occidentales, en particulier dans les élites américaines, qui pensent la même chose. Même des gens qui sont très anti-russes, et anti-Poutine, surtout comme Marco Rubio, par exemple. Donc il y a cette idée, et je veux dire, encore une fois, les services, Pitexet l'a dit, etc., les Américains savent qu'ils ne peuvent pas faire deux guerres à la fois contre la Chine et la Russie. Donc ils veulent détacher la Russie. Donc, pour un personnage comme Donald Trump, qui à la fois voulait détacher la Russie de la Chine par intérêt stratégique et par calcul stratégique, et qui en plus pensait que de toute façon, ça serait facile parce que le problème, c'est que les démocrates avaient merdé, c'était une stratégie gagnante extrêmement séduisante, et ça demande pas mal de temps pour un type comme ça de se convaincre qu'en fait, il doit laisser tomber cette stratégie. Parce qu'il faut bien se rendre compte que laisser tomber cette stratégie pour Donald Trump, ça veut dire que la situation est très, très, très compliquée. Ça veut dire que l'Amérique va devoir gérer un bras de fer géostratégique mondial contre une coalition russo-chinoise et que ça va être extrêmement douloureux. Et que ça sera douloureux pour l'économie américaine, que ça va être douloureux pour l'Europe, que ça va faire un stress test plus que ça même sur l'ensemble du système international américain qui est dangereux. Quand vous êtes celui qui est déjà en position dominante, c'était le cas de l'Empire britannique en 1939, vous n'avez pas envie de remettre tout en jeu. D'ailleurs, c'était le calcul d'Hitler. Il disait, les Britanniques, ils voudront pas entrer en guerre, ils auront trop peur que cette fois-ci, la guerre leur coûte leur empire. C'était ça le calcul d'Hitler, hein. Il disait, je leur dirai, vous gardez votre empire et moi, vous me laissez la domination en Europe et les Britanniques seront d'accord. Ça n'a pas été le cas finalement, mais une bonne partie de l'ascension d'Hitler entre 38 et 40, c'est dû au fait que les Britanniques ont hésité devant ce calcul-là, en se disant, le coût est tellement énorme. On risque de perdre notre place numéro un mondial, autant laisser l'Allemagne grimper très haut à parité plutôt que de tout mettre en risque. Bon. Donc Trump, de ce point de vue-là, les données du problème sont les mêmes pour lui, voilà. Au-delà de la personnalité de Donald Trump. Néanmoins, ce qu'il faut voir, c'est que les fameuses menaces de Donald Trump depuis des semaines ne sont pas restées sans suite. Il faut bien se rendre compte de ça. Parce que j'ai lu beaucoup de gens expliquer, oui, encore une fois, regardez, Trump, il a menacé de faire des sanctions, et finalement, il a invité Vladimir Poutine, il n'y a pas eu de sanctions, donc c'est n'importe quoi. Attention, non. Au terme du délai de 10-12 jours qu'avait laissé Donald Trump à Vladimir Poutine pour se décider, Donald Trump a dit et a balancé des sanctions à hauteur de 25%, qui devaient être doublées à partir du 27 août. Ça le sera peut-être, ça le sera peut-être pas, on verra. Mais à l'encontre de l'Inde. L'Inde, qui est le deuxième acheteur de pétrole russe, juste derrière les Chinois. En mettant un message totalement explicite sur Truth Social, en disant que les Indiens jouaient pas le jeu avec les États-Unis, qu'ils achetaient énormément de pétrole russe qui permettait de financer la guerre en Ukraine, et qu'en plus, ils avaient des partenariats militaires avec les Russes, et que donc, il n'y avait pas de raison qu'ils ne se prennent pas les droits de douane. Donc la réalité, c'est que Donald Trump a mis la menace à exécution. Il l'a mise partiellement à exécution parce que le dilemme de Donald Trump jusqu'à maintenant, comme il ne s'est pas encore totalement détaché de son truc et qu'il veut vérifier jusqu'au bout si c'est pas possible quand même de faire revenir Poutine à des meilleurs sentiments, est-ce que son premier calcul est quand même pas juste? Il a du mal à se défaire de cette idée. Eh bien, toutes les mesures qu'il a prises jusqu'à présent étaient prises en essayant de ne pas insulter l'avenir. C'est-à-dire de ne pas couper les ponts avec Vladimir Poutine en se disant toujours, si je rajoute ça, peut-être qu'il va changer d'avis. Alors il y a un moment où Donald Trump n'aura plus d'options et où il sera convaincu, c'est peut-être déjà le cas, on va en parler, que ben, ça ne marchera pas. Mais en attendant, forcément, ça implique qu'il y ait de plus en plus de dialogues, y compris choquants pour les gens avec un tapis rouge déroulé, etc., qui se fassent avec Vladimir Poutine. Néanmoins, il y a quand même donc deux points fondamentaux qu'il faut retenir à ce stade-là, c'est que la fameuse réunion, les yeux dans les yeux de Donald Trump et Vladimir Poutine, a eu lieu, et Donald Trump n'a fait aucune concession à Vladimir Poutine. Vladimir Poutine n'a toujours rien obtenu depuis le début de la présidence de Donald Trump. Vous direz, ou on me dira, ben si, l'aide américaine, il n'y a pratiquement plus d'aide américaine, on vous montre ce graphique-là qui sort partout sur Twitter. Oui, forcément, maintenant, c'est les Européens qui payent. Voilà. Mais les Américains continuent de fournir. C'est juste que Donald Trump a fait en sorte que désormais, ce soit les Européens qui payent. Bon. Alors, on pourrait dire, il aurait pu à la fois faire payer les Européens et en plus donner encore plus de son côté. Mais là aussi, ça renvoie à tout un tas de choses qui sont sorties. Et je rappelle notamment des choses que j'ai parlé avant, dont j'ai parlé avant les vacances, notamment ce qui a été mentionné sur les stocks qui s'amenuisent du côté du Pentagone, qui font qu'il y a des nécessités stratégiques qui font que les États-Unis doivent pousser, encore une fois, les Européens à gérer seuls la dissuasion face à l'Ukraine, à la Russie. Parce que les États-Unis ne peuvent pas faire les deux à la fois. Et si vous regardez les budgets militaires chinois et russes en parité de pouvoir d'achat, mais c'est important la parité de pouvoir d'achat pour les budgets militaires, parce que la plupart, pour les grandes puissances comme ça, la plupart à la fois les soldats, donc la main-d'œuvre, et les matériels sont produits, consommés sur place. C'est local. Donc, à partir de là, la parité de pouvoir d'achat vous donne un bon indicatif de la puissance. Et dans ces cas-là, si vous additionnez les budgets russes et chinois en parité de pouvoir d'achat militaire, vraisemblablement qu'on est déjà à parité avec les États-Unis, tout ça. D'accord? Quelque chose qui n'est jamais arrivé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc effectivement, il y a un danger important pour les États-Unis, en particulier dans leur situation difficile de financement, etc. Je n'y reviens pas, j'en ai parlé abondamment ces derniers mois. Néanmoins, donc, je disais, Donald Trump n'a rien cédé à Vladimir Poutine jusqu'à maintenant. Il ne lui a rien donné. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette réunion? Donald Trump avait dit que si ça ne marchait pas, il partirait au bout de 20 minutes en disant qu'il claquait la porte, etc. Bon. C'est pas ce qu'il a fait, mais apparemment, des informations qui sont sorties et que j'ai vues et qui semblent aller dans le même sens, c'est, semble-t-il, bien les États-Unis, donc Donald Trump, qui ont décidé que la rencontre serait écourtée. Ce qui n'est pas un bon signe, on va dire, d'entendre déjà avec Vladimir Poutine. C'est Vladimir Poutine qui a parlé le premier à la conférence de presse et Donald Trump qui a parlé le second. Alors beaucoup ont souligné que et pensé que c'était une prise de main finalement de la part de Poutine parce que normalement c'est le président des États-Unis qui parle le premier dans ce genre d'occasion. Je pense que c'est une mésinterprétation de ce qui s'est passé. Je pense que Donald Trump a voulu laisser parler Vladimir Poutine pour lui parler en dernier, lui donner le ton du truc et surtout voir ce que Poutine dirait avant de parler lui. Et encore, ça a été extrêmement bref. Alors, il est très probable que Vladimir Poutine n'avait pas tellement envie d'une conférence de presse libre, parce qu'il n'est plus tellement habitué, finalement. Mais assez clairement, du côté de Donald Trump, la situation semblait bloquée. Donald Trump, en sortant, il y a eu des choses intéressantes, vous savez. Il y a eu des petits éléments qui sont intéressants qui n'ont pas été trop soulignés. Lors de l'interview à Fox News qu'il a donnée, dans Air Force One, je sais plus si c'était en sortant ou en rentrant, je crois qu'il en a donné deux. Mais Donald Trump a dit, parce que je pense qu'on lui posait la question sur l'histoire, etc., de Vladimir Poutine, l'histoire de l'Ukraine, tout ça. Donald Trump a dit que lui, l'histoire, ça l'intéressait pas, que lui, il faisait des deals. Et il faisait des deals sur la base du deal. Il faisait pas des deals sur la base de l'histoire. Et ce qui est très intéressant, c'est que d'autres ont souligné que Vladimir Poutine, vraisemblablement, était venu avec une liasse comme ça de documents, probablement avec des cartes et tout dedans, pour expliquer que l'Ukraine n'existait pas historiquement, la Russe de Kiev en 882 Rouriski, etc. Ce qu'il avait fait avec Tucker Carlson déjà lors de ses interviews, c'était il y a 2 ans, je crois. C'est pour ça que je parlais des considérations historiques névrotiques de Vladimir Poutine, parce qu'il fait ça à chaque fois. Et c'est très intéressant, si vous lisez. Si vous lisez À la droite d'Hitler de Nicolas von Bello, il explique que chaque fois que Hitler faisait un discours sur la nécessité de la guerre, il repartait de l'Empire allemand, du traité de Versailles, etc., pour expliquer à quel point ils avaient été humiliés, etc. À chaque fois, c'est névrotique. C'est les impérialistes revanchards font souvent ça. Ils ont besoin d'expliquer pourquoi ils ont raison, voilà, de vouloir tout ça. Et je pense que si, que Vladimir Poutine a saoulé Donald Trump avec ça, déjà. Je pense qu'il a dû lui refaire son couplet. Alors tiens, regarde maintenant qu'on est là, regarde, voilà. Alors il a dû le nourrir ça et d'un certain nombre comment dire, de propos lénifiants, effectivement. Il lui a probablement dit, oui, mais oui, tu avais gagné en 2020, mais oui, tu as fait des choses extraordinaires, etc. Il a dû lui cirer les pompes comme il fallait pour plaire à Donald Trump. Et Donald Trump ne parle que de ça, d'ailleurs. À mon avis, c'est également significatif que Donald Trump ne parle que de ça parce que ça lui permet de faire un écran de fumée un petit peu en disant que la réunion s'est bien passée. Alors qu'encore une fois, je pense qu'au fond, ça ne s'est pas vraiment bien passé du point de vue de Donald Trump. Bien se passer, ça voulait dire arriver à trouver un arrangement. Or, vraisemblablement, ce n'est pas le cas, puisqu'il a obtenu aucun engagement de la part de Vladimir Poutine. À la sortie de ça, donc, il y a le rendez-vous qui est pris avec Zelensky, qui doit rencontrer lundi, mais aussi, semble-t-il, leader européen. Alors, j'ai vu des informations contradictoires de gens qui auraient dit qu'il allait rencontrer aussi le leader européen en présence de Zelensky, et puis finalement, que donc, il n'y aurait que Zelensky qui verrait les leaders européens après. Bon, en tout cas, il a convoqué tout le monde, finalement. Il y a quand même un côté branle-bas de combat, en disant, bon. Voilà ce que j'ai comme dernière proposition. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut s'arrêter surtout. Qu'est-ce qui est sorti, qui a été révélé? En général, c'est la Axios, c'est une source assez fiable qui permet d'avoir une idée. Ce qu'aurait proposé Vladimir Poutine serait la chose suivante. Ligne de front figée à Kherson et Zaporizhia. Luhansk aussi, mais Luhansk, de toute façon, l'oblast est entièrement occupé pratiquement, donc il n'y a pas de. Je veux dire, l'espace, on va dire, annexé formellement par la Russie est déjà occupé de facto par l'armée russe. Donc les trois qui sont vraiment en jeu, parce qu'il reste en grande partie à conquérir, c'est l'oblast de Donetsk, de Zaporizhia et de Lugansk. De Kherson, pardon. Ce qu'a proposé Vladimir Poutine, c'est gel de la ligne de front partout, donc à Lugansk, Kherson et Zaporizhia, Et en échange, le don de, en gros, les Ukrainiens qui se retirent de la totalité de la région de Donetsk. C'est-à-dire là où il y a les fortifications ukrainiennes les plus importantes, il faut se rendre compte de ça. Donc ça serait comme l'équivalent, si c'était ça qui était effectivement conclu à la fin, ça serait un Munich parce que ça serait le don des fortifications des Sudètes. Et il faut savoir, j'en ai déjà parlé il y a quelques temps, mais je le rappelle, que les Sudètes, c'était une ligne montagneuse fortifiée, en plus d'être la zone de population allemande en Tchécoslovaquie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Hitler avait voulu envahir les Sudètes, il aurait dû se heurter à des lignes de fortifications, de bunkers dans les montagnes pour envahir la Tchéquie. Et vu ce qu'armait la dotation en matériel et en population de la Tchéquie, qui représentait une quinzaine de millions de personnes, quand même, c'était un gros morceau, c'est le même équivalent que l'Ukraine par rapport à la Russie aujourd'hui, démographiquement. L'armée allemande aurait eu beaucoup, beaucoup de mal. Hein, il faut se souvenir que l'armée allemande a envahi la Pologne et la France avec tout le matériel qui avait été confisqué aux Tchèques, en fait, hein, et en utilisant les tanks fabriqués par les armées tchèques, puisque la sidérurgie tchèque avait permis de doubler le potentiel d'artillerie lourde de l'Allemagne. Donc c'était très important, les usines tchèques. Et en fait, en donnant les Sudètes à Hitler, on lui a donné toute la Tchéquie parce que on lui donnait toutes les fortifications, en fait. Et derrière, il lui a suffi 6 mois plus tard de lancer ses tanks et les Tchèques ont été obligés d'abandonner parce qu'ils n'avaient plus aucune fortification. Ça reviendrait au même de donner Donetsk aux Russes, là, actuellement, parce que ça leur permettrait de passer. Et ensuite, en gros, ils ont des autoroutes, il n'y a plus de fortifications jusqu'à Kharkiv, jusqu'à Dnipropetrovsk, etc. Donc ça serait vraiment très dangereux. Mais l'avantage pour Vladimir Poutine par rapport à avant, c'est que ça lui permet, parce qu'un truc que je vous avais dit depuis le début, c'est que la proposition de Donald Trump, figer la ligne de front telle quelle, c'était inadmissible par Poutine parce que il n'était pas question pour lui de lâcher les oblasts qu'il avait formellement annexés, parce que maintenant que c'est dans la Constitution russe, accepter que la ligne de front soit figée, ça voudrait dire ne pas accepter que ça veut dire accepter que ben, la constitution russe n'est pas appliquée. Donc ça naturellement c'est par définition assez inadmissible de la part d'un type comme Vladimir Poutine puisque maintenant c'est dans sa constitution donc c'est le territoire russe en fait hein, tout simplement. Si Vladimir Poutine a vraiment fait cette proposition, je pense que c'est de manière assez retorse parce que bien sûr il a l'intention ensuite de trouver sur un prétexte quelconque de violation de cessez-le-feu pour reprendre l'agression dans quelques temps, une fois qu'il aurait pris tout le Donetsk sans avoir à se fatiguer à conquérir Sloviansk, Kramatorsk, parce que ça va être compliqué et coûteux pour l'armée russe de faire tout ça. Alors que si on lui donnait le Donetsk, en gros, il aurait tous les objectifs qu'il peut espérer remporter d'ici un an de guerre, sans avoir à faire la guerre, donc en refaisant ses stocks, et ensuite il pourrait se relancer à l'attaque sur les autres fronts comme ce qui était prévu. Donc en fait, ça l'avantagerait, ça serait une proposition dans ce sens. Là où cette proposition est dangereuse, c'est qu'elle apparaît pour la première fois comme donnant des concessions de la part de Vladimir Poutine lui-même. Parce que ça veut dire, vous me donnez que le Donetsk, mais j'accepte de ne pas revendiquer militairement tout de suite le reste de Zaporijjia et de Kherson. Et c'est là qu'il y a un danger, et c'est pour ça que je comprends les inquiétudes qu'il y ait, parce que c'est pas impossible qu'il y ait une pression de Trump sur Zelensky. En lui disant, bon, écoutez, de toute façon, Donetsk, à l'horizon d'un an, il y a bonne chance que vous le perdez militairement, en y laissant pas mal d'hommes. Donc, ça serait plus sûr que vous laissez tomber effectivement Donetsk, toute l'oblast de Donetsk. En échange, il renonce quand même à prendre Kherson et Zaporijjia, donc il y a quand même une concession de la part de Vladimir Poutine, vous ne pouvez pas dire le contraire. Et peut-être, alors ça semble émerger de ce qui a été dit par Vitkov, et Zelensky s'en est félicité, donc vraisemblablement qu'il a reçu la même information, par le fait que les États-Unis seraient prêts à donner une garantie de sécurité à l'Ukraine, directement, ce que jusqu'ici Donald Trump refusait. Donc ça pourrait être un moyen d'essayer de faire passer la pilule à Zelensky, en lui disant, ce que tu veux, c'est des garanties de sécurité, ok, je te les donne, mais tu lâches Donetsk. Dans ce cas-là, dans l'absolu, ça ne serait pas forcément une victoire pour Poutine, dans l'absolu, s'il ne tenait que ça, parce que finalement, il prendrait quelque chose qu'il aurait probablement au bout d'un an de guerre de plus, même si ça lui coûterait en guerre. Mais si la sécurité de l'Ukraine était assurée, Effectivement, le fait que la guerre s'arrête et que les Russes n'avancent plus, en dehors de Donetsk, ça aurait des avantages. Maintenant, Vladimir Poutine a, semble-t-il, eu d'autres exigences sur la langue russe et probablement encore d'autres exigences qu'on ne connaît pas et qui seront communiquées à Zelensky. Zelensky, d'ores et déjà, lui, il a senti le truc venir, puisqu'il a dit, non, mais en gros, Donetsk, ça veut dire donner toutes nos fortifications à la Russie. Et de toute façon, Vladimir Poutine ne comment dire, ne respecte jamais sa parole, donc il trouvera un motif de nous attaquer. Ce qui est très probable. De toute façon, c'est certain, encore une fois, because impérialiste revanchard. Donc la grande question, en fait, ça va être comment ça va se gérer demain. Et de savoir exactement, dans la tête de Donald Trump, où est-ce qu'on en est maintenant. C'est-à-dire, est-ce que il voit ça comme un dernier espoir, tout en sachant que Zelensky ne voudra pas, et donc, par acquis de conscience, il va proposer, voir que ni Zelensky ni les Européens sont d'accord. Lui-même ne se fait pas d'illusions sur ce que cherche à faire Vladimir Poutine, parce qu'on a quand même senti son discours changer ces derniers temps. Et auquel cas, il dira, ben à ce moment-là, la guerre continue, mais aux frais des Européens, vraisemblablement. Parce qu'il ne semble pas que, dans l'immédiat, les États-Unis veuillent donner beaucoup plus. Je vais m'arrêter sur cette première hypothèse, c'est quand même important ça. Parce que la réalité, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, à propos du problème du risque de la guerre nucléaire, c'est que malgré tout, c'est un peu la limite de la capacité d'aide que peuvent avoir les États-Unis à l'Ukraine, c'est qu'il y a un moment où une intervention directe, c'est un risque de guerre nucléaire avec la Russie. Et ça, on n'en sortira pas dans l'immédiat, on en sortira peut-être d'ici quelques années. Et je pense que c'est tout le projet, j'en ai déjà parlé ici, du Golden Dome de Donald Trump, qui va vraisemblablement devenir réalité, puisque le Pentagone, c'est sorti cette semaine, a révélé les premiers détails sur ce en quoi ça consisterait. Il y en aurait pour 175 milliards de dollars, et ça serait constitué de quatre couches, en fait, en gros, avec intercepteurs, radars, peut-être armes laser. Trois donc qui seront basés à terre, donc une extension en fait du bouclier antimissile actuel, et une autre qui serait installée en orbite vraisemblablement. Et ça c'est très important parce que si jamais grosso modo il s'agit de déployer ce que l'Amérique de Reagan n'avait pas réussi à faire, c'est-à-dire l'initiative de défense stratégique, et donc le vrai bouclier antimissile impénétrable, à ce moment-là, qu'il y a une rupture de la parité dans la menace nucléaire entre les Russes et les Américains, à ce moment-là, les Américains pourraient rentrer dans une guerre conventionnelle directe contre la Russie, ou pousser les Européens à le faire, en disant, après, on est à l'abri de la guerre nucléaire, nous, donc faites ce que vous voulez. Mais je pense que ça prendrait quelques années. Et que d'ici là, je vois mal les États-Unis intervenir directement contre la Russie. Inversement, ça veut dire que ça mettrait aussi un compte à rebours sur la Russie, qui pourrait se dire que le jour où ça arrive, surtout que ça risque d'être le moment où peut-être Donald Trump aura un successeur et qui serait peut-être encore moins enclin à négocier avec Poutine, à ce moment-là, ça ouvre finalement une fenêtre dans laquelle les Russes sont obligés de bouger, y compris contre l'OTAN, pour essayer de tirer parti, encore une fois, de leur sanctuarisation nucléaire. Ça, c'est possible. Autre solution qu'il y a, c'est que effectivement demain, c'est pas l'hypothèse que je privilégie le plus, mais c'est possible aussi que demain, Donald Trump discute de tout ça avec Zelensky et les Européens et dise, écoutez, c'est un bon plan de paix pour le moment en tout cas. De toute façon, on peut rien faire d'autre parce qu'on va faire quoi? On va balancer du pognon dans une guerre contre Poutine, ça passera pas. Donc on va faire cet échange de territoire, c'est ce qui est prévu. Donc peut-être que les Russes à ce moment-là lâcheraient aussi ce qu'ils ont conquis à Soumy, lâcheraient ce qu'ils ont conquis dans l'oblast de Kharkov, et que grosso modo on arriverait à un deal de ce genre-là qui serait de toute façon temporaire, et auquel cas on serait dans un petit Munich. Mais comme je vous l'ai déjà dit depuis longtemps, et pour moi, quelle que soit l'hypothèse qui sera poursuivie, ça reviendra au même. Ça reviendra au même pourquoi? Parce qu'encore une fois, on a soit l'hypothèse chinoise, soit l'hypothèse allemande. Je rappelle l'hypothèse allemande. L'hypothèse allemande, c'est le Munich a lieu. On leur donne la République tchèque. Derrière, ils attaquent la Pologne. Et derrière, ils attaquent. Bah, c'est le début de la guerre mondiale, quoi. Ça serait l'hypothèse dans laquelle on donne à Vladimir Poutine son morceau d'Ukraine. Vladimir Poutine ne fera pas sortir la Russie de son économie de guerre parce que il y a un effet cliqué, donc il peut pas revenir dessus, ça peut pas redégonfler, c'est pas possible. Il peut pas accepter d'avoir des centaines de milliers de types qui ont été au front et qui reviennent de sombrer dans le crime organisé, etc. Donc c'est beaucoup trop compliqué. Donc il faut que la guerre continue et il faut utiliser cette arme, surtout cette armée colossale qu'il a faite pour poursuivre ses objectifs, parce que je rappelle que ses objectifs, c'est le recul de l'OTAN et la domination d'une partie de l'Europe. Le but étant, à terme, de faire parité avec les Chinois et les Américains. Et le seul moyen pour la Russie, qui manque d'assises démographiques et économiques, c'est de dominer une partie de l'Europe, et en particulier, si possible, d'avoir un lien avec l'économie allemande. Donc à partir de là, Vladimir Poutine continuera. Et donc ça, c'est l'hypothèse allemande, c'est il attendra un petit peu, quelques mois, le temps de refaire repositionner son armée, et il repartira à l'attaque, soit d'abord de l'Ukraine, soit des Pays-Baltes ensuite, enfin probablement les deux, hein, comme le Hitler a fait d'abord protectorat de Bohême-Moravie pour terminer le travail en Tchécoslovaquie, et ensuite attaque en Pologne, ben là, probablement il y aurait la même chose, achèvement de l'Ukraine en partant de nouvelles bases au Donetsk, notamment en partant de Slovensk et Kramatorsk, qui permettrait une nouvelle concentration de troupes, et ensuite donc occupation de l'Ukraine et derrière attaque des Pays-Baltes. Dans le cas contraire, on est dans l'hypothèse plutôt japonaise. Hein, hypothèse japonaise, enlisement en Chine soutenue notamment à partir de 1941 par la loi pré-bail américaine. Chine soutenue aussi par l'embargo américain sur le pétrole qui fait des difficultés économiques dans le Japon et qui rend la guerre difficilement soutenable pour le Japon, ce qui pousse le Japon à jouer son va-tout avec l'attaque de Pearl Harbor et derrière l'ouverture de l'espace stratégique qui lui permet de conquérir la totalité de l'Asie du Sud-Est et de faire la guerre longue. Dans cette hypothèse-là, ben, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de deal. Les Européens qui continuent de soutenir l'Ukraine, avec l'aide et notamment en achetant du matériel américain, avec cette aide-là, l'offre ukrainienne ne s'effondre pas. Donc les Russes continuent à patiner. C'est beaucoup trop long pour Poutine qui voit le temps courir et les difficultés économiques se poursuivre chez lui. D'autant plus que s'il n'y avait pas de deal, je pense que Donald Trump remettrait en place les sanctions. Et encore une fois, avec les sanctions qui ont déjà été mises en place en Inde, ça va taper au portefeuille de la Russie, ça. Donald Trump a laissé entendre tout à l'heure qu'il n'y aurait peut-être pas les sanctions parce qu'après que Modi ait dit en gros on achète notre pétrole à qui on veut, les Indiens lui auraient donné le signe qu'ils étaient prêts à se détourner du pétrole russe. On verra ce qu'il en sera. En tout cas, c'est un nouveau coup dur. Et ça correspond à la question de l'embargo pétrolier en sens inverse, bien sûr. Hein. Dans un cas, vous privez un pays qui n'a pas de pétrole et qui en a besoin pour faire la guerre de son pétrole. Dans l'autre cas, vous privez un pays qui a du pétrole, mais qui a besoin des revenus du pétrole pour faire la guerre, la Russie. Mais ça revient au même, en fait. Hein. Vous le coupez de ses ressources pour faire la guerre. Dans les deux cas, c'est pareil. Et auquel cas, la Russie sera obligée d'escalader encore plus et de jouer son va-tout, par exemple en attaquant les Pays-Baltes directement, pour essayer de débloquer la guerre et enfin de battre l'Ukraine en se disant qu'en fait, vu que l'essentiel de l'aide occidentale arrive par les ports polonais, notamment Gdansk et donc l'ancien Danzig, et qu'ils sont à moins d'une centaine de kilomètres de la péninsule, l'exclave de Kaliningrad, ça serait un calcul assez pertinent pour quelqu'un qui déciderait de faire tapis. Mais dans les deux cas, vous arrivez à quoi? Dans les deux cas, vous arrivez au déclenchement de la guerre. Que ce soit la guerre en Europe ou la guerre du Pacifique, c'est la même mécanique. Donc qu'on soit sur un scénario allemand ou sur un scénario japonais, encore une fois, ça revient au même. Je vous l'ai dit il y a quelques mois, et là je vous le redis à la sortie de cette rencontre Trump-Poutine, parce qu'encore une fois, cette rencontre Trump-Poutine n'a rien donné, encore une fois, comme on pouvait s'y attendre. Pourquoi? Parce que les données du problème ne laissent pas apparaître de deal facilement possible. S'il y a un deal, ça sera un deal munichois. C'est pas totalement à exclure, mais vu la dynamique, malgré tout, et la dynamique européenne elle-même, hein, puisqu'il y a une dynamique européenne importante. Il y a un nationalisme européen qui a été un peu réveillé par l'agression en Ukraine. Les élites européennes ne veulent pas voir la Russie progresser. C'est un peu le Trump auquel elles peuvent faire la guerre, en fait, hein, puisque depuis le début, comme je disais, c'est la paranoïa démocrate. Il y a eu une association dans l'esprit des centristes européens de l'establishment. de la Russie et du populisme. Et donc l'idée d'être déjà en guerre contre le populisme russe, contre le populisme de Poutine, est très nette. Et pour eux, ça conditionne le fait, pour les élites européennes, le fait de rester elles-mêmes au pouvoir. Donc, je pense pas qu'elles laisseront tomber les choses. Et je pense que l'oreille de Donald Trump est de plus en plus ouverte à ce genre de discours parce que il a vu s'imposer de plus en plus la mauvaise foi de Vladimir Poutine, qui a peut-être réussi à l'endormir encore un peu pendant cette rencontre. Encore une fois, j'en doute parce que certains indices sur la façon dont ça a été abrégé, etc., le laissent penser. Mais voilà, très honnêtement, je pense que si ça a été abrégé, c'est que ça s'est effectivement mal passé. Donald Trump a dit que ça s'était bien passé, qu'ils avaient progressé, etc. Encore une fois, je pense, pour ne pas insulter l'avenir, parce que dans l'idée de Donald Trump, c'est comme ça qu'on négocie. On n'insulte pas l'avenir, on n'insulte pas le type avec lequel on entend faire un deal à la fin. Par contre, on fait tout pour lui envoyer des signaux, pour lui tordre le bras. Donc, on dit qu'on va sanctionner, on sanctionne effectivement, mais de manière indirecte, hein. Toute manière indirecte, si vous regardez la stratégie russe depuis ces 6 derniers mois, vous allez bombarder les Iraniens, vous allez sanctionner les Indiens, etc. Donc vous tapez di jamais directement sur les Russes, mais vous faites en sorte que le message soit assez clair. Sans parler des documents qui ont fuité dans la presse britannique sur les installations nucléaires russes qui, vraisemblablement, ne pouvaient venir que du renseignement américain. Donc voilà. Sans surprise, hein, Donald Trump n'est pas pro-russe, Donald Trump n'a pas fait de concession à la Russie comme imaginé. On attend de voir cependant, naturellement, puisque je ne suis pas devin, ce qui va sortir de la rencontre avec Zelensky demain. Mais je reste là-dessus. De toute façon, encore une fois, vous avez deux chemins qui mènent à la même conflagration, selon moi. Je regarde un petit peu mes notes s'il y avait d'autres choses que je voulais vous dire, mais je ne pense pas. Est-ce que nous avons eu, mon cher Léo, des questions?
Je crois, en tout cas, nous avons des dons. Déjà, on remercie sur Tipeee, donc depuis le 1er août, Lucas, Mathieu, qui nous dit merci pour votre travail et vos analyses, l'une des rares productions intellectuelles réconfortantes pour ceux qui espèrent du changement. Et on remercie, il y a Yvan, pardon, sur Tipeee ce soir. Ensuite, sur YouTube, on remercie Elafos, qui nous a rejoint en tant que compagnon historionome. On remercie le fameux Tung 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 Saour qui a offert une souscription qui a été attrapée au vol par Emeric Aubin 458.
Et on dit bienvenue aussi à Cédric Selin, qui est arrivé il y a 2 jours, qui s'est abonné. Nous le remercions bien vivement de sa présence. Je vous rappelle, hein, que vos dons sont nécessaires pour l'actualité, pour la survie de cette chaîne, pour le travail, pour survivre à toutes les avanies que cela peut nous coûter par ailleurs. Et puis pour la campagne qu'on espère conduire de promotion. On a fait quelques tests là. Grâce à un don qui nous a été fait, nous remercions encore le King Latry. On a fait quelques tests au mois d'août. Alors, c'était pas très concluant. Il n'est pas impossible que les promos soient encore moins rentables qu'avant, ce qui compliquera l'affaire. Mais c'est peut-être parce que c'était le mois d'août et qu'il y a peu de présence sur YouTube. Donc, on refera quelques tests et on vous en dira plus début du mois de septembre. Voilà, le projet est encore une fois le cap sur les 100 000 abonnés. Si vous voulez y participer, n'hésitez pas à nous rejoindre.
On remercie aussi Matt Bro Shaker pour son don. Il nous dit une confrontation militaire terrestre Russie-OTAN limitée aux Pays-Baltes et Kaliningrad sans autre expansion est-il selon vous un scénario crédible?
Alors, ça serait surprenant, ça voudrait dire que l'impérialisme revanchard russe a encore plus foiré que c'est déjà le cas. C'est-à-dire que normalement, quand on arrive à ce genre de confrontation directe, en général, l'impérialiste revanchard a au moins quelques succès au début. Alors, ça peut être des succès assez mesurés, hein, je pense à la bataille de Kalinikos, de percée de Macédoine contre les Romains, qui a pas donné grand-chose, ça a juste permis de faire durer la guerre. Ça pourrait être ça, ça serait un scénario bas, on va dire. Mais je pense que dans la situation actuelle de l'Europe, ça aurait de toute façon des répercussions politiques. Parce que le problème principal de l'Europe, encore une fois, c'est qu'il y a une lézarde dans sa structure. Les gens veulent bien se battre pour l'Europe, les gens veulent pas se battre pour les élites européennes actuelles. Ça, j'en suis assez convaincu. Et donc, il y a une fragilité très importante de l'Union européenne là-dessus et en Allemagne aussi notamment. Tout dépendra en grande partie de la façon de la Pologne. Les derniers exercices, mais ils datent un peu maintenant, le dernier date de 2021, tendaient à montrer que les Russes balayeraient en grosso modo les Polonais en une semaine ou 15 jours. Bon, la contre-performance russe en Ukraine a laissé penser que peut-être ces estimations, ces jeux de guerre étaient un peu foireux, en fait, et que donc la Pologne tiendrait bien mieux. Maintenant, l'impérialiste revanchard a souvent tendance à surprendre, et il faut voir que la grande question pour moi, c'est à quel point les armées européennes qui ne se battent pas en Ukraine bénéficient vraiment du retex ukrainien. C'est-à-dire, au bout d'un moment, pour savoir faire du cheval, il faut faire du cheval. Et juste apprendre et regarder. Alors, je veux bien qu'on me dise que les armées occidentales apprennent à regarder les Ukrainiens, font des retours d'expérience, etc. C'est possible. Attendant, quand les gens n'ont pas fait, ont pas fait. Donc, c'est difficile à dire. C'est difficile de dire que les armées européennes, forcément, seraient aussi bonnes que les Ukrainiens dès que les Russes attaqueraient. Parce que, malgré tout, ils n'ont pas la pratique. Et je ne suis pas sûr qu'il y a quand même eu beaucoup d'évolution, notamment du côté des Russes, notamment du côté des drones, etc. Je ne suis pas sûr que la modernisation de l'armée polonaise se fasse beaucoup de ce niveau-là. Ils s'équipent de beaucoup de matériel coréen, des chars, etc. Bon, on a vu que c'était des matériels qui avaient des difficultés dans la guerre moderne, dans la nouvelle guerre, en fait, qui a eu lieu en Ukraine. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit pas en soi. Enfin, voilà. Il risque d'y avoir des surprises là-dessus. Donc, à mon avis, si les Russes envahissaient les Pays-Baltes, je pense qu'ils envahisseraient aussi, à terme, un bout de Pologne. Peut-être pas un gros bout de Pologne. Mais un bout dans le nord-est suffisamment pour que ça provoque une relative humiliation de l'OTAN et que ça crée des dissensions politiques, surtout sur l'arrière. Et je pense notamment à l'Allemagne. À mon avis, les dangers sont dans ce sens-là, plutôt. Donc, ça peut s'arrêter directement. Je vois pas l'armée russe débarouler jusqu'à Bruxelles, d'un coup comme ça, si vous voulez, en l'état. Encore que, parce que si jamais ils arrivaient à passer la... Enfin, passer la Pologne, ça serait quand même un gros morceau. Bon, après, c'est sûr que si l'armée russe arrivait à passer la Pologne, derrière, il n'y a rien, quoi. Je veux dire, jusque faire en Allemagne, voilà, il n'y a plus rien. Après, il faut arriver jusqu'à la France, quoi, qui arriverait peut-être à faire quelque chose, à bloquer les gens, peut-être sur le Rhin, mais voilà, l'Allemagne sera en grand danger si la Pologne ne tenait pas. À voir. Il y a une fourchette des possibles, on va dire, à ce niveau-là.
On remercie Thomas Pariante pour son don en shekel qui nous dit: quel plaisir de vous retrouver, émoticône cœur en feu, bisous, nous rompicherons jusqu'à la victoire finale. On remercie Denis Patron G4, membre en tant que maître historionome depuis 42 mois, qui nous dit: chaque émission nous rapproche de la provincialisation de l'Europe. Merci Philippe. Et on remercie Dominique 1554 pour son don.
Merci beaucoup. Ben on a terminé, je pense. Désolé pour le petit faux départ au niveau du son. Je ne sais pas si les gens qui verront l'émission en rediffusion, on l'aura coupé ou pas. En
Je
tout cas, vous
vais
raterez
me
rien.
débrouiller pour le couper, oui.
Vous raterez juste 10 minutes de silence de ma part et de bricolage de Léo pour essayer de rétablir le son. Ça me fait plaisir de recommencer aussi, même si c'est difficile par ailleurs. La rentrée promet d'être intéressante aussi dans l'actualité française, etc. Donc je pense qu'on aura quand même beaucoup de choses à voir cette année. Je vous remercie encore infiniment pour votre soutien. Je remercie tous ceux qui nous ont rejoints depuis le mois de juin. Y en a certains qui ont fait des soutiens ponctuels. C'est mieux si ça se fait dans la durée, ça nous donne plus de visibilité. Hein. Vous pouvez même donner moins, mais donner plus régulièrement, à la limite, on y voit mieux. Hein. On est comme les magazines, en fait. Hein. Les magazines préfèrent les abonnements parce que ça leur donne une vision de leur destin. Ça nous permet d'avancer et encore une fois, la façon dont on a restructuré la chaîne, si vous la découvrez, allez voir les vidéos en accès libre. Si vous voulez voir les autres, c'est le premier palier d'abonnement. C'est quoi? C'est 4,99 € je crois, et ça vous donne accès à la totalité du contenu de la chaîne, enfin du contenu jadis gratuit en toutes les émissions, notamment tous les essentiels. J'ai réactualisé la liste. Les essentiels, c'est les émissions qui sont moins actuelles et en tout cas qui conceptuellement ont des choses intéressantes, donc qui ne périment pas ou qui valent le coup d'être revues. Celles-là, il y en a une cinquantaine. Et donc, vous pouvez les retrouver comme ça et les voir sans publicité grâce à ce premier palier et bien sûr sans soutien. Et je l'ai montré au début, mais toujours pareil, j'en parle peu souvent, mais c'est important. Le meilleur moyen, encore une fois, de nous soutenir et de nous suivre, c'est les livres. Puisque je rappelle que malgré tout, je reste quand même meilleur, selon moi, à l'écrit qu'à l'oral. Et donc, c'est le meilleur moyen d'avoir de manière dense tous les concepts pour pouvoir ensuite réfléchir historiquement de son côté. Petite question, Léo, quand même?
Oui, puisqu'il y a un nouveau don, mais t'es quand même en train de me dire là que pour 4,99 € seulement, ils ont accès à combien d'heures de contenu?
Oh, il y a des centaines.
Bon, moi, je leur dirais plus de 1 000 même, hein.
Probablement des milliers, oui, mais juste les essentiels, je pense qu'on doit être sur plus d'une centaine d'heures.
Et en plus, seulement 4,99 € d'un montant qui pourrait augmenter quelque part.
Ouais.
Donc ce serait bête de pas y aller maintenant, quoi.
Et après, vous avez bien sûr le reste du contenu disponible en plus, les bulletins géopolitiques, etc.
Donc on a un nouveau don donc de Dominique 1554. Vous ne parlez pas beaucoup de ce qui représente de la richesse, la Sibérie et la Chine. Pourriez-vous en parler?
Oui, alors bon, la Sibérie, c'est là où il y a une bonne partie des ressources minières et hydrocarbures russes. Donc, c'est effectivement très important. Alors, je sais pas trop ce qu'il entend par la question. La Chine représente de la richesse aussi, oui. Alors, si c'est en tant que soutien à la Russie, naturellement, mais c'est un soutien qui est de plus en plus évident. Et qui ne va vraisemblablement pas s'arrêter. De toute façon, c'est ce que j'ai dit depuis le début de la guerre, hein, quand il y avait des gens qui expliquaient que la Russie se déta... la Chine était un moyen de faire la paix parce qu'elle voulait pas la guerre, etc. Donc elle pouvait nous aider à pousser Poutine à faire la paix. Que ça n'arriverait pas parce que l'intérêt de la Chine depuis le début, c'était que la Russie gagne la guerre. Et les Chinois ont fini par l'avouer 3 ans après, il y a quelques mois. Maintenant, si la question c'est les éventuelles ambitions de la Chine en Sibérie, c'est possible. Maintenant, de toute façon, les Chinois peuvent toujours espérer exploiter la Sibérie. C'est déjà le cas avec un certain nombre de partenariats qu'ils peuvent avoir avec les Russes. Et pour les Chinois, s'emparer de la Sibérie, si ça veut dire l'effondrement du reste de la Russie, c'est pas un calcul gagnant. Parce que ça veut dire malgré tout que vous auriez une Chine qui serait plus riche de la Sibérie, d'accord, mais qui serait toute seule, grosso modo, face aux États-Unis. En fait, c'est ça qui se passerait. Donc je pense pas que ce serait un calcul tout à fait gagnant. Voilà. Si c'était ça la question.
On remercie DR ou Docteur sur Tipeee pour son don. Il nous dit,
Merci.
t'en as un petit peu déjà parlé, bonsoir, à l'automne en France, il n'y aura rien ou il y a quelque chose?
Je veux pas vendre la peau de l'ours, mais on se rapproche sur quelque chose, je pense. On se rapproche sur quelque chose. J'ai eu des échos du milieu parlementaire qui voudraient que, enfin, d'après certains assistants, s'il y a une des raisons très prosaïques pour lesquelles il n'y a pas eu de censure au mois de juin, c'est parce que le personnel politique, notamment les députés français, n'avaient pas eu de vacances l'année dernière et qu'ils avaient envie d'en avoir cette année, en fait, des vacances d'été. C'est assez malheureux, mais c'est humain et ça se comprendrait. Auquel cas, c'est un truc qui aura sauté. Moi, je pense qu'il y aura une censure assez vite, ne serait-ce que parce que, encore une fois, bon, on fera une émission prochainement là-dessus, mais d'après les derniers sondages parus, il y a désormais 66% des Français qui sont pour la censure. C'était 52% au moment où Barnier a été censuré. Donc la volonté de censure dans l'opinion publique a explosé. L'électorat du Rassemblement national est massivement pour la censure, alors que je crois qu'il avait un peu diminué au lendemain de la censure de Barnier. Et surtout l'électorat du PS est désormais majoritairement pour la censure aussi. Donc tout ceci conditionne aussi les mecs qui font la volonté de leurs électeurs. S'ils sentent que leurs électeurs veulent pas censurer, ils censurent pas. S'ils sentent que leurs électeurs veulent censurer, ils censurent. Et donc je pense qu'il y aura une censure et une censure. Est-ce qu'après une deuxième censure, Emmanuel Macron pourra nommer un autre gouvernement juste comme ça? Petit doute, est-ce qu'il redissoudra? Enfin bref, ça rouvre la boîte. Donc de toute façon, il va se passer des choses. La question politiquement, institutionnellement, la question c'est est-ce qu'il va se passer des choses socialement, dans la rue, etc. Il y a eu des trucs qui avaient été annoncés, j'avais fait une émission dessus, ça a un peu disparu, est-ce que ça va revenir? Bon, là aussi, on scrute Internet, on attend de voir comment ça va se passer.
On l'a fini.
Alors, pour terminer, juste, on en est où des vidéos du congrès?
Pas plus avancé.
D'accord. Mais enfin, ça arrivera bientôt aussi, donc ça fait partie du contenu auquel vous aurez accès. Donc, n'hésitez pas à faire un petit coucou sur Tipeee ou sur YouTube. Voilà. Merci à tous de votre présence. Je vous dis à très bientôt. Il y aura à nouveau un bulletin cette semaine pour ceux qui sont abonnés.